pour leur santé, elle n'en peut plus elle aussi, hein, de cette île, de cette atmosphère, etc. Et ça, ce départ d'Albine de Montholon, c'est une véritable cassure dans l'histoire de la captivité. Napoléon s'effondre moralement, il dira d'ailleurs à son mari, depuis le départ de votre femme, sur ma tombe, il ne croit plus que des ronces. En fait, c'est quand même dur hein, comme expression. Et d'ailleurs, Montholon, qui reste, lui, Napoléon a obtenu que le mari reste, pour ça il les a payés, hein. Il alterne entre la menace, l'intimidation, la récompense, enfin, Napoléon est un peu un homme désespéré qui tient à conserver sa suite et avoir voilà, quelque chose, parce que sinon, enfermé dans son périmètre de 3 km, il se meurt littéralement, mais il perd encore Albine, et finalement il reste moins Bertrand, et de plus en plus à l'écart de Longwood, il lui reste Montholon, mais Montholon est sans arrêt présent, il décrira ses tours de garde à Longwood comme quelque chose d'assez assommant, mais bon, il n'y a plus qu'un personnage, et dans le même temps, Napoléon s'affaiblit. Et encore ses domestiques, pas tous, mais voilà, Napoléon est de plus en plus isolé et commence à entrevoir que effectivement Sainte-Hélène peut être sa fin, qu'il peut y terminer son existence.
Il faut bien voir qu'à Sainte-Hélène, il y a vraiment une chape de plomb qui pèse.
Charles-Éloi Vial.
L'ennui est terrible, le climat est atroce, Napoléon est souvent invivable, donc la vie à Sainte-Hélène est vraiment très pénible. Donc il n'est pas étonnant que dès 1816 ou 1817, certains de ses proches soient tentés de jeter l'éponge et de demander leur retour en Europe. C'est ce que va faire Lascaz en utilisant des moyens détournés fin 1816. En 1818, là aussi, Gourgaud, qui n'en peut plus de Napoléon, qui s'est brouillé complètement avec lui, va demander à être rapatrié en Europe. Hudson Lowe va très volontiers le renvoyer en Angleterre. Ensuite, il ne reste plus que le couple Montholon, le couple Bertrand et les domestiques marchands et alliés. En gros, c'est vraiment le noyau dur qui reste avec Napoléon. Madame de Montholon va partir fin 1818 également parce qu'elle en a assez du climat, elle veut revoir sa famille, donc elle quitte Longwood, ce qui d'ailleurs navre Napoléon qui s'était beaucoup attaché à elle. Donc il ne reste plus en fait que Montholon et Bertrand. La comtesse Bertrand est souvent malade, elle est souvent au lit, elle est enceinte, elle fait plusieurs fausses couches, elle se dispute aussi un petit peu avec Napoléon qui lui aurait semble-t-il fait des avances. Donc Napoléon est très seul, il a un grand officier, son grand maréchal du palais et un général chambellan qui se relaient quotidiennement, jour après jour, auprès de lui. Et ils finissent eux aussi par se disputer, ils se disputent entre eux, ils se disputent avec Napoléon, ils se détestent, il y a une forme de rivalité. Il y a aussi l'intérêt du testament de Napoléon qui commence à apparaître à partir du moment où sa santé commence vraiment à décliner, qui va avoir le plus gros héritage. Et enfin, fin 1819, on a ce qu'on a appelé la petite caravane, c'est-à-dire qu'il y a quelques compagnons d'exil supplémentaires qui sont envoyés d'Europe, ce qui va permettre de relâcher un petit peu la pression. C'est-à-dire que il y a par exemple un prêtre, Bonavita, et les Français sont dans un tel état de dépression qu'ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est à mourir. Ils ont peur de la mort, ils sont hantés par l'idée de la mort, ils sont ravis de voir un prêtre et ils vont assister à la messe avec plaisir. Même Napoléon va assister à la messe parce que ça l'occupe probablement. Il va y avoir un médecin, donc qui est le médecin, le docteur Antomarchi, qui va soigner Napoléon. Donc ça permet de relâcher un peu la pression. En 1819-1820, le temps qu'on fasse connaissance, que de nouveaux équilibres se créent au sein de la maisonnée, ça relâche un petit peu la pression.
De plus en plus isolé, de plus en plus déprimé, Napoléon voit sa santé se détériorer petit à petit. Montholon, un des derniers fidèles, écrit.
L'empereur m'a dit
« Je perds mon énergie. Je ne vivrai pas 2 ans. Je ne dors plus de ce bon sommeil qui me reposait la tête. Je m'assoupis. Je me rappelle mes fautes. C'est comme un cauchemar continuel dès que je ferme les yeux. » Allons, travaillons.
Et il se mit à me dicter des notes comme correction à la description de l'Égypte.
En arrivant à Sainte-Hélène, Napoléon est un homme relativement jeune, mais qui n'est pas dans un état de santé florissant.
Thierry Lenz.
Toute sa vie, comme vous, comme moi, Napoléon a subi les maladies, le temps qui passe, et donc il n'est pas spécialement en bonne santé. Alors il se trouve que le climat de l'île, malgré tout ce qu'on en a dit, est assez propice au rétablissement de cette santé, un petit peu d'activité, il continue à faire du cheval, bon, etc. Et on peut dire que jusque à l'année 1819, sa santé est acceptable. Le problème, c'est que après l'annonce des décisions du Congrès d'Aix-la-Chapelle, Napoléon va être touché par ce que nous appellerions aujourd'hui le stress. C'est-à-dire que ben voilà un homme qui n'a plus de perspective. Cet homme toujours en mouvement, cet homme qui regarde toujours vers l'avenir, cet homme qui ne tient pas en place, il sait qu'il va mourir là. Il a 49 ans, donc il n'est pas au bout de sa vie. Et très probablement, cet état de stress a favorisé le développement des maladies dont il souffrait. On savait depuis très longtemps qu'il souffrait de l'estomac. Hein, il a eu des crises assez fréquentes sous son règne. Il souffrait de dysurie, donc difficulté à uriner depuis très longtemps. Donc ce sont des crises assez douloureuses. Et puis, il a eu tout ce qu'on attrape sous les tropiques, des chauds et froids, des rhumes, etc. Mais par exemple, son ulcère à l'estomac, qui à un moment est devenu quand même une maladie, dit très très ennuyeuse hein, pour lui, c'est très probablement accéléré au moment où il a été soumis au stress.
Et là, il va complètement baisser les bras, c'est-à-dire qu'il ne va plus travailler du tout. En 1818, physiquement, il n'est plus en forme, donc il a du mal à travailler de manière soutenue et il a eu déjà beaucoup de mal à terminer son livre sur les 100 jours. Son livre sur les 100 jours qui va paraître fin 1818 en Angleterre, qui va là aussi passer relativement inaperçu parce que c'est un livre qui est très peu objectif. On a l'impression que Waterloo était une victoire, en fait. Donc, c'est un petit peu gênant. Après 1819, donc Napoléon va vraiment avoir un terrible coup au moral. Il va s'arrêter d'écrire. Tout ce qu'il va faire, c'est lire. Il va lire, il va annoter éventuellement des ouvrages et il va dicter quelques petites notes, mais ce sont souvent des notes très courtes. Notamment, il va faire une note sur Jules César, il va faire une note sur Frédéric II, donc il se réfugie un petit peu dans ses souvenirs ou dans le temps passé. Il cherche à fuir sa situation. Il va aussi écrire à un moment, il va dicter une note sur le suicide, ce qui montre forcément qu'il a un petit peu des idées noires. Donc 1819, sa santé décline de manière dramatique, il ne sort presque plus. 1820, ça va un peu mieux. Dans les 6 premiers mois de 1820, il connaît un léger mieux puisque le médecin Tom Harkey lui a conseillé de faire de l'exercice et de prendre l'air. Ce sont des conseils de base et vraiment de simple bon sens, mais Napoléon va les appliquer et ça va aller mieux parce qu'il va faire un peu de jardinage, il va redessiner les jardins de Longwood, il va bêcher un petit peu et puis surtout il va régenter quelques dizaines d'ouvriers et c'est ça surtout qui va lui remonter le moral. Donc Napoléon va mieux, puis son moral décline à nouveau à partir de juin 1820, sa santé décline également, et à partir, on va dire en octobre 1820, on voit déjà qu'il a très mauvaise mine. À partir de janvier 1821, là on comprend qu'il n'en a plus que pour quelques mois à vivre.
Napoléon ne sort plus de Longwood, ne fait plus d'exercice, il a du mal à se nourrir. Les souvenirs d'Ali, son serviteur, montrent qu'il comprend qu'il va bientôt vivre un long calvaire. Il sait qu'il va mourir dans des conditions difficiles.
En rentrant de sa promenade, il passait au salon et se couchait sur son canapé. Et là, comme un homme anéanti, il restait quelques minutes pour reprendre haleine et se reposer.
Laissez-moi respirer,
disait-il. Et posait alternativement les yeux sur M. de Montholon et sur nous. Il ajoutait
« Je ne sais ce que j'ai à l'estomac. La douleur que je ressens est comme celle que ferait un couteau qu'on y aurait enfoncé et qu'on se plairait à remuer. »
Quand il était un peu reposé, il faisait rapprocher la table et se mettait en devoir de manger. Mais il n'avait pas plutôt porté à sa bouche les premières cuillerées de son potage que l'appétit disparaissait tout à coup. Il se recouchait sur son canapé, où il restait environ une heure, et allait ensuite se mettre au lit. Depuis que l'empereur vivait dans cet état de malaise, il n'avait plus le courage de s'habiller. Il répétait souvent
« Oh, pauvre moi !»
Prochain épisode, la mort et la légende. Napoléon va affronter la maladie et sa propre fin avec courage. Mais ce n'est pas sa dernière bataille. Il veut absolument préparer sa postérité, sa légende.
On aura beau retrancher, mutiler, supprimer, J'ai refermé le gouffre de l'anarchie et débrouillé le chaos. J'ai créé un code de loi qui portera mon nom aux siècles les plus reculés. J'ai livré 50 batailles rangées que j'ai presque toutes gagnées. Je me suis élevé de rien à être le plus grand monarque. J'étais la voix des temps nouveaux. Sur quoi pourrait-on m'attaquer qu'un historien ne puisse me défendre ? J'ai confiance dans l'histoire. J'ai eu de nombreux flatteurs et le moment présent appartient aux détracteurs acharnés. Mais la gloire des hommes célèbres est, comme leur vie, exposée à des fortunes diverses. Il viendra un jour où le seul amour de la vérité animera des écrivains impartiaux.
Merci à Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda, Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz. Avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages. Tous les épisodes de la série Le Crépuscule de l'Aigle, consacrés aux dernières années de Napoléon, sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.